Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Nous sommes le 25 décembre et vous êtes, tout comme moi, en train de revendre vos cadeaux sur Internet. Tante Jacqueline vous a offert le DVD du spectacle d'Anne Roumanoff, qui s'appelle pourtant Anne Roumanoff. Oui, c'est un vrai titre. Cousine Mireille vous a, elle, offert le coffret de Joséphine Ange Gardien, les 36 saisons. Et vous soupçonnez oncle Raoul d'être en train de faire pareil que vous avec le cadeau que vous étiez en train d'emballer hier à la même heure. Eh oui, souvenez-vous, le livre de Christine Angot. Mais attendez. Non, c'est pas ça la magie de Noël. Noël, c'est justement ce moment de partage, de cohésion, d'échange, un moment pour se retrouver, un moment pour échanger justement, et certainement pas un moment pour débiner Joséphine Ange Gardien, Anne Roumanoff, Christine Angot, qui sais-je encore. Alors voilà, pour toutes ces raisons, lâchez ce clavier, oubliez l'idée de revendre vos cadeaux et détendez-vous avec nous pendant l'heure qui vient.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
À mes côtés, celle qui partage une mission avec moi aujourd'hui, celle de vous faire passer une agréable pop-heure en notre compagnie. Charline Roux, bonjour Charline.
Bonjour Antoine.
Tout est revendu sur eBay?
Tout.
Bien. Au menu de ce pop-pop-pop, nous vous proposons de réécouter un rocker anglais passé par la scène de pop-pop-pop. Miles Kane, évidemment, mais avant de le réécouter, je ne vous propose pas ma blanquette, non, je vous propose de le réécouter, lui.
C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
Bonjour, Jean Dujardin. Pardon, je viens de vous dire bonjour. Excusez-moi, je m'efface pour laisser à votre idole absolue le soin de vous dire bonjour.
Dis-moi bonjour. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin.
Dis-tu bonjour, alors?
Bonjour.
Non, là, t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour.
Bonjour.
C'est mieux.
Hein, c'est mieux,
oui,
hein.
C'est mieux.
Ah, oui.
Bonjour, non, j'en ai chardin. C'est quoi une fois qu'on se dit bonjour, là?
Bon, on enchaîne, non?
Ouais, on enchaîne, d'accord. Jean Dujardin, vous êtes bien comme ça, en peignoir coton éponge?
Ah oui, je suis très bien, avec ma non-coupe de cheveux, mon peignoir et mes mules. Oui, j'aime bien, oui.
Ne quittez plus.
Bien aimé.
Question importante, vous êtes plus coton éponge que satin?
Je suis plutôt coton éponge que satin, oui.
Plutôt mule que claquette?
Plutôt claquette, non.
Claquette picot ou claquette classique?
Claquette classique.
Classique, bien. Jean Dujardin, il y a plus important que la question mule ou claquette. Je sais, ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Et parmi mes préférés, il y a celle d'un autre oscarisé, Alexandre Desplat.
La pop culture, c'est... Ce sont les couverts Russell Wright, en bakélite, dans lesquels nous prenions nos repas quand j'étais enfant.
La pression. C'est vachement bien. C'est trop bien ce qu'il dit là, Alexandre. La pop culture, ça pourrait être cette voix ce matin, là. Tu vois, la voix que j'ai là.
La voix un peu cassée.
Ouais, complètement. Je suis au bout, là, tu vois. Je suis au bout de ma vie.
Cet après-midi, parce que vous êtes complètement jet-lagué, en quelque
sorte.
Oui,
exactement, cet après-midi, exactement.
Vous pouvez expliquer pourquoi, nos auditeurs, vous êtes aussi...
Non, je ne pas du tout. Je ne suis pas là pour raconter, moi.
Non,
je ne vais pas vous dire quoi que ce soit.
Nuit un peu agitée, peut-être, non?
Non, n'a rien à voir. Ça pourrait être un rhume aussi.
Ça pourrait être un rhume.
La pop culture, ça peut être un rhume aussi, Antoine Decaune.
La pop culture, ça peut être un rhume aussi.
Tiens, Desplat. Tiens dans ta gueule, Desplat. Va faire le malin avec ta bakélite.
Clé couvert.
Bon, j'ai annoncé Alexandre Desplat comme oscarisé, tout comme vous, mais en réalité, il est doublement oscarisé. Alors même, si vous êtes le seul acteur français...
Enfin, parce qu'il avait été nominé quoi, 5 fois, 6 fois, putain, on n'en pouvait plus.
Mais alors même, si vous êtes le seul acteur français à avoir jamais reçu un Oscar, le fait est que vous n'en avez qu'un, comme Lance Armstrong d'ailleurs. Il va falloir mettre un petit coup de collier, non?
Il va falloir... Ah. Mets un coup de speed quand même. il faudrait qu'il me le donne un petit peu ici aussi, moi. J'aimerais bien qu'il me donne des choses, moi, ici. Ça serait pas mal, quoi.
Vous soyez reconnu dans votre pays, vous voulez dire?
Ah, j'aurais bien voulu, oui. Oui, j'aurais bien voulu. Non, c'est pas, on les fait pas évidemment pour ça. Mais on est quand même contents, c'est vrai. C'est une espèce de c'est un égo trip qui doit être très éphémère, mais qui fait du bien.
On parle de pop, de culture, de pop culture, de blanquette, de jelly anglaise avec Jean Dujardin et Miles Kane dans la suite de Pop, juste après le morceau Sensible. Des petits de Bretto.
Ou sensible,
ouais, oui,
c'est
ou
comme on veut.
On peut le dire dans les deux sens. Ouais. Voilà.
Ah bah toi t'es le plus beau, mais t'as jamais rien trop fait. C'est facile quand on vit pas grand chose et on ose effriter les trophées. Quand on est trop bien assis à juger les travaux finis, toi t'as tout dit, t'as rien pris,
Mais tu parles tout comme si, puis tu prônes, t'es au-dessus que tout ça c'est de la rime. À deux balles et demi mots, que t'as même jamais l'utile. Gars, continue de cracher, t'en auras presque plus. De ta salive, j'en ferai des glisses à perte de vue. Après ça, t'écriras quoi? Toujours tes problèmes à régler. T'étoufferas tes gros poids que t'essaies de faire porter, que t'essaies tout cacher de l'écran où t'envoies des PD, des TG sans même savoir l'orthographier. Je resterai insensible, je resterai insensible face à tes cris sans moi, que tes cris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand ta voix. Il y a ceux qui proposent, il y a toi qui n'ose pas, qui reste dans son coin sans jamais faire de faux pas. Plus tu critiques, plus j'encaisse bien. J'aime savoir qu'il y en a qui ne mangent pas de mon pain. Plus j'étais jaloux que je ne passerai même pas l'hiver, que j'étais qu'un pédir ou sans dents et dans la galère. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire de moi, car je serai encore bien là quand t'auras tout dit de toi. Car je pense qu'il va falloir t'y faire, car je pense avoir bien plus pour te plaire. Car j'aime te faire couler de l'encre à t'en faire chanter, l'air qui te trempera dans la tête jusqu'à dire que t'en es. Je resterai insensible, je resterai insensible face à tes cris sans moi, que tes cris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies. Ça fait des blabla, des bien plus grands que toi. Ça fait un tabac qui se consume trop sans moi. Ça fait des blabla, juste du brouhaha, qui je crois parle de moi, mais je ne m'y vois pas. Insensible, insensible.
Eddie de Bretto avec son morceau Sensible, enfin sensible.
D'accord, comme vous, un
oui,
peu.
Comme moi, exactement comme moi. Bien, bien, Charline. C'est à retrouver sur l'album Cure.
Ou Cure, c'est comme on veut.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
Et nous sommes aujourd'hui avec celui qui a remporté un Oscar avec Crédon.
Pardon.
Alors passons à son pop portrait avec des paroles, enfin j'espère. Alors, un pop portrait, Jean, bah, c'est votre portrait, mais.
À base de pop.
Et c'est signé Charline Rureux.
Quand on est petit, on aime se déguiser. En face de nous, un homme qui en a fait son métier. Un peu comme Michou, mais avec une trajectoire un peu différente. Enfin, moins bleu dans l'ensemble. Quoi. On a rarement vu en France comédien aussi prompt à la transformation. Enfin, volontairement, j'entends. C'est pas une filmo, c'est la Fashion Week. 2004, Jean porte le Stetson, la chemise de cow-boy et le gilet en peau. C'est la collection Les Dalton, dont les imprimés feront un grand retour en 2009 pour la collection capsule Lucky Luke. 2005-2016, camaïeux de jaune sur corps et cheveux pour la marque Brice de Nice. 2006 et 2009 marquent l'arrivée du look costard serré et gomina, sorti d'une fine moustache pour le look OSS 117. Costard aussi pour la collection 2011, dite The Artist, accessoirisée d'un Oscar. Hein. Et puisqu'on parle accessoires, lunettes cerclées de noir, cheveux mi-longs, c'est le prêt-à-porter 99 francs. Jean Dujardin a aussi arboré l'uniforme dans Le Retour du Héros, le manteau en fourrure dans Le Bruit des glaçons, la taille enfant avec un homme à la hauteur. Et aujourd'hui, il nous revient avec brio toujours, mais en peignoir. Nous sommes donc ravis de recevoir Jean Dujardin, collection automne 2018.
Là, peut-être pas la suivre cette collection. Là, ça va pas cartonner ça.
C'est risqué.
Ouais.
Attendez. Dans l'espace, ça peut cartonner. Hein, si jamais.
Je reviens quand même sur une phrase utilisée par Charline au début de son portrait. Un homme qui en a fait son métier comme Michou, mais avec une trajectoire un peu différente. Ça vous correspond?
Je dis moins bleu.
moins bleu. Oui. Je vais juste refaire ça. Il y a très longtemps que j'ai
pas fait ça. Bien. Oui.
La question était.
Je m'en souviens plus. C'était.
Eh bien, peu importe.
Tout de suite, Alicia Keys. Michou, pas Michou. Ouais, voilà, c'est ça.
Tout de suite, Alicia Keys.
Mais j'irais bien voir, d'ailleurs, moi, dans ce cabaret. J'ai jamais foutu les pieds.
Mais c'est vrai que vous avez quand même un don pour le déguisement.
C'est-à-dire que c'est une façon de se planquer aussi, un peu, je suppose. J'aime bien ça. C'est peut-être pas très, d'ailleurs. C'est pas très cinéma français, tout ça.
Non, pas trop.
Mais
j'avais envie, c'était ça, j'avais envie, quand j'ai commencé le café-théâtre, j'étais évidemment beaucoup déguisé, et j'avais envie de retrouver la même énergie au cinéma que sur scène. Donc c'est pour ça que j'ai écrit Brice, c'était pour... Mais j'avais quand même envie de me planquer aussi. C'est-à-dire que j'aime pas trop, bizarrement, j'aime pas trop qu'on me voit. Mm-hmm.
Bah, ça tombe bien.
C'est, raté.
La
radio,
ouais. C'est un peu raté. Ouais. Non, mais radio, ça va mieux en fait maintenant. C'est parce que je cohabitais pas tout le temps bien et avec moi. Et là, pour le coup, ça va un peu mieux.
Jean Dujardin, je rêve de vous faire passer tout entier dans mon mixeur de pop culture. Mais pour ça, il faut faire la pop list avant. Hop. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, vous avez porté votre choix sur Douglas Kennedy et son tout premier roman « Piège nuptial », d'abord traduit sous le titre « Cul-de-sac », paru en version originale en 1994. Charline, vous qui êtes d'une certaine manière une experte en pièges nuptiaux, ouais, puisque vous en êtes, je crois, à votre 7e mariage, mm-hmm, deux mots sur ce livre.
C'est l'histoire de Nicholas Hawthorne, pigiste pour des petits journaux aux États-Unis. Il débarque en Australie sur un coup de tête, achète un combi Volkswagen pour traverser le bush et les portes de l'enfer de s'ouvrir sous ses pieds, enfin ou presque.
Bien. Alors, qu'est-ce qui vous plaît tellement dans ce livre de Douglas Kennedy?
Ah ben, l'envie de le faire, l'envie de le vivre, déjà. Mmh. Le départ, le sac à dos, tout ça, ce genre de film.
Ouais.
Le genre de film survivor, mais arrivé effectivement en plein milieu du bush australien avec des consanguins. Je crois qu'il y a eu un mauvais film qui s'était fait dans les années 90 et je ne sais pas qui a les droits de ce truc-là. C'est un livre que je donne, que je prête, que je relis et que je revis à chaque fois.
Il n'y a plus qu'à en faire un film, alors.
Bah oui, mais c'est difficile, je pense que c'est... Enfin, j'ai pas les droits, je sais pas qui a ça, d'ailleurs, mais faudrait se rencarder. Mais je trouve que le... Je sais pas, c'est un truc que j'ai envie de vivre. C'est encore un genre, pour le coup, que j'ai pas encore vécu. J'ai envie d'avoir peur, voilà. Ça me fait peur. J'ai envie d'avoir des sensations. Et j'ai envie d'avoir peur au cinéma dans ce genre de film-là.
Le film qui a été fait s'appelle Bienvenue à Whoop Whoop.
Ah oui, c'est ça, Bienvenue à Whoop Whoop.
Bravo, ouais, Charlie, vous êtes vraiment incollable. Bien, ensuite, votre choix musical se porte sur une compile, Dino's Essential, Dean Martin. I'd cry like a baby if you told me goodbye. I'd feel like a snowball on the 4th of July. If you ever said you were leaving for good, I'd weep like a weeping willow, honest I would. Dean Martin, on parlait de livres juste avant. Vous avez lu la bio de Dean Martin par
non,
Nick Toshies, Dino? Ah ben, je vous la conseille vivement.
Ah bah tiens, c'est une bonne idée.
Absolument génial.
J'aurais pu me l'offrir, tiens.
C'est vrai.
Ouais, voyez.
On peut trouver la bio d'ici la fin de l'émission. je demande.
Dino est un Dean Martin, c'est vraiment un médicament, quoi. C'est pareil, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on met en musique? Je mets Dean Martin. Ça sera toujours.
Ça vous réconcilie avec l'existence.
Ouais, et puis ça force quand même le respect parce que chanter comme ça bourré.
Ouais. Ah, il était pas toujours bourré non plus.
Non.
Mais il s'en rendait pas compte surtout, je pense.
Je sais pas. Mais...
Vous êtes plutôt Dean Martin solo ou le duo avec Jerry Lewis?
Dean Martin solo.
Ouais.
C'était un truc aussi qui date. Mon père écoutait ça beaucoup, ouais, donc ouais, je pense qu'il y a quelque chose de très, très chaud là-dedans. Une petite madeleine qui traîne, ouais.
Et plutôt Dean Martin que Sinatra.
Et plutôt Dean Martin que Sinatra.
C'est plus sensuel quand même.
Oui, et puis plus second degré. Il y a quelque chose de plus drôle. Ouais. Un truc. J'en avais sur OSS, c'est-à-dire on l'avait fait Gentle of My Mind pour le générique et ça reste, oui.
Bien, continuons cette pop list avec la série. Et pour vous, la série, c'est celle-ci.
Sunday, Monday, happy days. Ah oui, ça. Hey, Cunningham dans mon bureau.
Happy Days, c'est une série créée par Gary Marshall en 74, diffusée à partir de 76 sur TF1, puis sur Feu, la 5 en 86. Charline, vous qui aimez la Gomina au point de la préférer à la Lac, pourtant plus féminine, pouvez-vous nous rappeler le pitch de cette série?
N'importe quoi, ces conseils cheveux, Antoine de Comte. C'est l'histoire des Cunninghams, famille américaine typique des années 50-60, et dont le fils Richie réalisera Willow et Apollo 13. Enfin, dans la vraie vie, parce que c'est Ron Howard. Dans la série, il se contente de subir les conseils chelous de son pote à banane, très envahissant mais cool, nommé Fonzie.
The Fonz.
C'était une influence majeure de Fonz pour le jeune Jean Dujardin.
Exactement. C'est la cool attitude, c'est quand ça va mal, il y a The Fonz. Tu penses à The Fonz. Et ce qui est très drôle, la petite histoire, c'est que j'ai parlé à télé américaine quand il y avait la course aux Oscars, je parlais de Henry Winkler et de The Fonz. Quand j'ai dit The Fonz, les gens ont applaudi. Enfin bon, là-bas, c'est évidemment God. Et j'ai dit tout le bien que je pensais de Fonz. Je dis qu'il m'avait même inspiré, je suppose, dans ma jeune vie d'adolescent.
Et vous avez eu l'Oscar.
Et non, mais en plus, non, c'est qu'après, je suis allé faire une connerie de sketch avec les mecs de Funny or Die. Et le lendemain, qui arrive The Fonz, Henry Winkler, qui arrive, il dit, je t'ai entendu à la radio. Il m'a pris dans les bras. Il m'a dit, tu vas venir manger à la maison. Voilà, mais j'étais fou. J'avais The Fonz dans les bras.
Et vous êtes installés ensemble, enfin.
Oui, ça va. Mais ça va beaucoup mieux maintenant.
Oui, ça va beaucoup mieux.
Et il vient d'avoir un Emmy Award, Henry Winkler, pour une super série qui s'appelle Barry.
Super.
Vous êtes vraiment adorable, Charline. Et on termine avec le film, et ce film, c'est Fisher King, réalisé par Terry Gilliam en 91. Charline, que peut nous dire la grande pêcheresse que vous êtes de ce roi pêcheur?
C'est une histoire de tendre zinzin, un animateur de radio en dépression, Jeff Bridges, et un ancien... un ancien professeur devenu SDF et vivant un peu dans un monde imaginaire magistralement campé par Robin Williams.
Ah ouais.
I'm a knight on a special quest. And I need help. Quest. That's why they sent you. The little...
Yes, yes.
God. I'm the janitor of God.
I'm the janitor of God. Robin Williams, magistral, on est d'accord?
Oui. Ah oui, oui, formidable. Ah non, mais c'est, il est complètement fou ce film. Et en plus, c'était une commande qu'on avait faite à... Donnez-moi le nom du...
Terry Gilliam.
Terry Gilliam, voilà. Et c'était une commande d'un... d'un... Et je trouve ce film merveilleux. Je trouve tellement touchant. Voir Robin Williams à poil en train de danser, en train de regarder les nuages et dire... en train de chanter I love New York. Il me bouleverse ce film.
Il fait partie des acteurs Robin Williams comme ça qui vous ont marqué.
Oui, parce que tu sens qu'il, enfin le ouais, on comprend pas son départ d'ailleurs. Enfin on le comprend. Enfin moi j'en sais rien, j'étais pas proche, je sais pas, mais c'est une telle générosité, une telle dévotion, ça planquait quoi derrière en fait, ouais, quoi, ouais, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et puis Jeff Bridges.
C'est bien dans ce film qu'il fait des petites chaises avec les armatures de bouchons de champagne.
Ouais, exactement. Ouais. Il dit qu'il y a on trouve des choses formidables dans les poubelles. Et il fait une petite chaise, effectivement, avec le bouchon de champagne.
Ouais. Vous êtes vraiment incollable, Charline.
Je résume. À votre service, surtout. En
fait. Je résume Piège nuptial, Dino, The Essential Dean Martin, Happy Death, Fisher King. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Sunday, Monday, happy days. I'd cry like a baby if you told me goodbye.
Tiens, tout ce que j'ai envie de vivre, c'est encore un genre pour le coup que j'ai pas encore vécu.
I'm a knight on a special quest. And I need help.
Sunday, Monday, happy days. Crying like a baby for you.
C'est un livre que je donne, que je prête, que je relis et que je revis à chaque fois. Gars, vous n'avez pas fait la sieste, c'est bon ça.
On ne fait pas la sieste dans cette émission.
Ah non, c'est je rajoute un pop. Voilà, plus pop cette émission.
Voilà ce qui se passe dans la tête de Jean Dujardin cette fin de
oui,
semaine.
Oui, ça pouvait être ça. C'est ça toujours difficile de donner le livre préféré, la chanson préférée, l'autre. Ouais. Mais enfin, je passe souvent par ces choix-là, oui.
C'est un instantané. Bien, à suivre dans Pop Pop Pop, Alicia Keys. Non, je plaisante. on va parler de pop culture, mais aussi et surtout de I Feel Good, le nouveau film de Carverne et de Lépine. Et en attendant, écoutons donc Feel Good Incorporated par Gorillaz.
Pop Pop Pop, Antoine Decaune sur France Inter.
We'll be right back.
Feel Good Incorporated de Gorillaz, c'était en 2005 et en 2018, c'est le titre du film dans lequel notre invité Jean Dujardin tient le premier rôle. Alors vous allez me dire que j'ai l'esprit d'escalier, Jean, et vous n'aurez pas tort, mais on évoquait ce peignoir de bain que vous portez en début de film et je me dis que ce n'est pas si fréquent que ça, les acteurs en peignoir. Alors, il y a bien sûr les peignoirs satin mi-cuisse des films de Marc Dorcel, mais surtout le peignoir de Jeff Bridges dans Big Lebowski. Qu'est-ce qu'il nous raconte de votre personnage, ce peignoir, Jean ?
Ben c'est la phrase de Séguéla, on est d'accord. Mm-hmm. C'est la Rolex, ce peignoir. Mm-hmm. C'est le petit string papier qui est en dessous. Je vous ai pas montré, évidemment, mais c'est
un signe de réussite.
C'est normalement, oui, un signe de réussite. Mm-hmm.
Mais c'est toujours un peu un truc de gratteur, le peignoir. C'est généralement ce qu'on vole dans les hôtels.
Ah oui, vous faites ça, vous ?
Non, pas moi. Ah, des non. gens que je connais.
Vous faites ça,
non.
Il y a des. Ouais, ouais. Moi, non. Moi, je vole tous les savons, les trucs comme ça, tous les trucs.
Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de I Feel Good, hein, le film de Lépine et Carverne, quelque chose dans votre regard me dit qu'il serait peut-être temps. Écoutons la bande-annonce.
Bon, comme je dis toujours, hein, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie.
J'avais lu un article comme quoi des tas de milliardaires avaient commencé dans leur garage.
Je voulais inventer un truc simple mais qui me rendrait riche. Comme le Rubik's Cube ou les séries américaines.
Oh, à ton avis, pourquoi je me suis fait chier à trouver une idée géniale?
C'est quoi ta grande et belle idée?
C'est de rendre les petites gens beaux.
Et dire que j'ai commencé avec un peignoir et des mules.
Si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as raté ta vie. Jean, vous en avez 46. Vous avez bon espoir?
J'ai complètement enfoiré ma vie. Enfin, mon projet, le projet que j'avais en CM2. J'avais fait une rédaction pas mal.
Qu'est-ce que vous vouliez faire en
CM2? J'avais dit, je serais dessinateur humoristique, j'aurais une deux chevaux bleus et je vivrais dans un chalet dans la montagne. Donc j'ai vraiment foiré, quoi. Vraiment tout foiré. Mais je désespère pas un jour de redessiner, de refaire des petits dessins dans les coins, des petites caricatures.
Bah, rien ne vous en empêche.
Non, mais c'était assez proche finalement de ce que je fais maintenant. C'est-à-dire des petits personnages déguisés. C'est vrai que dès lors que j'ai arrêté de dessiner, j'ai commencé à jouer. Enfin, j'ai joué ces personnages-là, quoi, que je grattais. Ces petites caricatures.
L'ambition, c'est d'ailleurs une des questions centrales du film, avec la réussite. C'est pas votre premier rôle d'ambitieux, hein, on se souvient de 99 francs notamment. Qu'est-ce que celui-là a de différent des autres?
Qu'est-ce qu'il a de différent des autres? J'ai l'impression que celui-ci, les autres étaient peut-être plus ancrés, enfin, étaient... Celui-ci n'existe pas vraiment, en fait, je crois, surtout. Jacques Porat, c'est vous, c'est moi, c'est surtout un moyen, c'est un véhicule pour Carverne et Delépine de balancer tout ce qui les chatouille. Donc je ne suis qu'un véhicule pour balancer des saloperies. Je pense qu'il n'existe pas véritablement, ce personnage.
Dans I Feel Good, vous incarnez donc Jacques, hein, un personnage mégalo qui veut sa Trump Tower, et un personnage qui cherche une idée simple pour le rendre riche. Des années plus tard, il va retrouver sa sœur Monique, jouée par Yolande Moreau, dans un petit village près de Pau, conseillée au réalisateur par José Bové. Et c'est dans ce petit village que Monique dirige une communauté Emmaüs. Des personnages drôles et déconnants, dans un décor qui l'est beaucoup moins. Et vous parlez de dramédie.
Oui, parce qu'ils font souvent des dramédies, oui. Mm-hmm. Ils font souvent, c'est un peu les compagnons du cinéma français. C'est comme ça qu'ils se voient aussi. C'est-à-dire qu'ils font tourner généralement des copains, musiciens, des non-acteurs. C'est une tambouille. Moi, je m'amuse à dire, des fois, ils font du compost. C'est-à-dire qu'ils ont plein de vieilles idées qui balancent. Allez, on les jette. Et puis, des fois, il peut sortir des projets très utiles, comme ce film-là. Ce qui est vraiment concret dans le film, c'est le village. Pour le coup, ça existe vraiment. Cette belle utopie qui n'en est pas une, puisque vraiment, elle fonctionne. À échelle locale, ça fonctionne. On le voit, ce que fait Germain Sarry. Le moteur du film, ça a été ça. Donc ensuite, le principe de comédie, c'est de mettre un chien fou là-dedans. Mm-hmm. C'est le laboratoire. On met une frangine, un frangin qui ont des idées totalement opposées et on regarde ce qui se passe. Mm-hmm. Et on se marre de ce décalage, évidemment. Mais le point central, l'enjeu du film et le propos, c'était ça. C'était d'abord le village et surtout ne pas les trahir.
La grande idée de Jacques, votre personnage, c'est donc que pour avoir du travail, il faut que les gens soient désirables, donc beaux. C'est un peu une métaphore du métier de comédien, non ?
Ouais, encore que, j'ai l'impression. Peut-être, bon, en France, un peu moins, j'espère, quand même. Aux États-Unis, ouais, t'es quand même beaucoup plus jetable, ça c'est sûr. Dans l'embauche, évidemment, on ira forcément vers quelqu'un de plus avenant, physiquement, c'est sûr.
Dites pas ça en me regardant.
Non, non, mais c'est malheureux, mais c'est... Enfin, c'est ça qui est d'ailleurs atroce dans son point de vue, cet abruti, c'est de se dire que les pauvres sont forcément vilains. Ouais. Ça, c'est quand même...
Descendants.
Ouais.
Le film est truffé de punchlines absolument délicieuses. Une de mes préférées, c'est « Je veux être dans l'eau du panier de crabe ». Vous êtes extrêmement bien servi par les dialogues. Lesquels vous ont, vous, particulièrement marqué ?
Oh, y en a qui chantent encore. Je me marre parce que je l'ai appris tellement, ce texte. Je voulais tellement, je ne demande pas improviser, je voulais tellement pas sortir du circuit. Mais c'est pas Karl Marx, il va t'aider à avoir un jacuzzi ou une pergola ou... Ou je te laisse payer, j'ai que des bitcoins. Ça, c'est des trucs que je sais que je vais garder. Enfin, même, je vais véroler tout le monde avec ça.
Les bitcoins, c'est pas mal quand même.
Ah, les bitcoins,
ça peut sauver de quelques additions douloureuses. Oh,
ouais. Je disais tout à l'heure que vous aimez bien travailler avec des réalisateurs perchés, hein, du type Hazanavicius, Blier, bientôt Dupieux. Avec Carverne et Delépierre, vous avez été donc servi. Qu'est-ce qui vous plaît dans leur forme de dinguerie poétique ?
C'est tout ça, la dinguerie poétique, le fait qu'ils soient un peu, en fait, un peu chez eux, quoi. Ils ont un peu leur petite boutique. Et puis surtout, c'est qu'on va aussi chez des gens qui me rassurent. En vieille angoissée, j'ai l'impression qu'ils désacralisent complètement le plateau. Enfin, rien n'est grave, il n'y a pas de croix au sol, il n'y a pas de. C'est comme si c'était un film qui sortirait jamais.
Il n'y a pas de chant contre chant.
Pas de chant contre chant. Mmh. Donc c'est très rassurant de se dire, viens, on part, viens, on s'amuse, on va faire un bel objet, on va le faire sérieusement, mais. Il n'y a pas cette grande promesse de grande machine, tu sais. Et des fois, elle est très lourde à tenir, cette promesse de « fais-moi rire » ou « donne-moi de l'émotion ». Moi, je ne sais jamais véritablement si je suis bien disposé pour jouer. Il y a des jours où je n'ai pas forcément envie de jouer. Il y a des trucs que je ne sais pas faire. Donc j'y vais. J'ai dit « tiens, Carverne des Lépines, tiens, jamais fait, jamais joué ça ». Je pressentais d'instinct, évidemment, dans les dialogues. C'est un peu la truffe. Tu suis la mouche, tu sais, qui va se poser sur une truffe et tu dis là, il y a un vrai truc à manger. Mmh. Là, il y a une très belle comédie. Il y a du fond, le fond et la forme. Putain, génial. Il y a tout, mais elles sont rares.
Qu'est-ce que vous ne savez pas faire ?
Il y a des colères froides que je ne sais pas jouer encore, je pense. Il y a des trucs à la Piccoli, par exemple. Ouais. Ça me fascine. Bon, il y a le gigot, la montée du gigot, qui est une vraie colère, mais il avait aussi des colères froides. Contenir. J'ai essayé de passer par là avec Nicole Garcia, pas encore ça, mais elle m'a amené un peu là-dedans. Et ça, je pense qu'on devient vraiment meilleur acteur, enfin on devient un très bon acteur à 95 ans, c'est ça qui est super. Hein.
Michel Bouquet,
entre autres, enfin, tu vas voir, j'avais vu Marielle, moi, au théâtre, enfin, c'était la gestion des temps, des silences, ils sont passés par tellement de choses.
Les compères Carverne et Delépine vous ont donc entraîné, vous l'avez dit, pour ce tournage au sein du village Emmaüs de l'Escarpeau, ce qui est déjà un lieu dingue en soi. Après avoir vécu un peu au sein de cette communauté solidaire et autosuffisante, il faut le rappeler, et sans verser dans l'angélisme, est-ce que vous êtes reparti avec plus de foi en l'humanité ou au contraire une espèce de colère un peu pourquoi ça s'applique pas mieux en fait ?
Non, je suis reparti avec beaucoup d'optimisme en fait. On a une France très associative qui s'occupe aussi des autres et qui est quand même assez rassurante. Et surtout en ce moment, quand on entend le bruit des bottes un peu partout, c'est quand même très réconfortant en fait. Je repars avec avec une envie énorme de les revoir évidemment. Et puis quelle belle idée ce village. C'est 7 hectares, c'est 130 personnes qui s'autogèrent, s'autonourrissent, font du cochon, du miel, un potager. Tout ça fonctionne merveilleusement bien. Mais avec des engueulades aussi, c'est une petite société, ça vit, ça meurt, des enfants naissent, les gens se marient,
les maisons sont à l'envers.
Les maisons sont à l'envers, il n'y a pas de permis de construire. Peu importe, les choses se font comme ça et c'est touchant et très réconfortant en fait.
I Feel Good porte bien son titre, hein, c'est ce qu'on appelle un film feel good. C'est un genre que vous préférez, vous, en tant que spectateur, aux films plus anxiogènes, genre apocalyptique avec des zombies dedans ou des clowns psychopathes ?
Oui. A priori, oui. J'aime bien, il y a un truc un peu... Enfin, c'était leur désir, hein. Ils voulaient un peu se frotter un peu à la comédie italienne, quoi. C'est presque leur film le plus bavard.
Oui.
C'est très stimulant de regarder les comédies italiennes avant de faire une comédie. Quand tu regardes, je sais pas moi, Le Fanfaron, ou L'Homme au sans visage, enfin Gassman, il est tellement stimulant que... Et j'ai toujours cette image du dernier sketch des monstres où tu vois Tognazzi et Gassman comme ça. L'un qui est paralysé, et l'autre qui lui montre le cerf-volant, il fait regarde. À la fois c'est stupide, c'est drôle, c'est italien, quoi. C'est peut-être ça que j'aime, en fait.
Jean Dujardin, votre rêve le plus fou, c'est de faire un film de cap et d'épée. Et évidemment, quand on pense film de cap et d'épée, on pense aussitôt à ça.
Lâche ! Qui que tu sois, je te reconnaîtrai, car je t'ai marqué à la main.
Ouais.
Quand il sera temps, si tu ne viens pas à
la Gardère
ira à toi.
Oui.
Alors d'abord, puisqu'on parle de Lagardère, merci d'avoir choisi France Inter plutôt qu'Europe 1. On est avec Feel Good. Qu'est-ce qui vous fait tant rêver dans les films de cap et d'épée ? Ah. Vous êtes plutôt le côté Jean Marais le bossu ou bien Jane Kelly, les Trois Mousquetaires ?
Non, ni l'un ni l'autre. C'est, en fait, c'est un truc, voilà, on parlait de panoplie tout à l'heure, c'est juste pour remplir, en fait, la panoplie. J'avais goûté un peu à ça, à l'escrime dans The Artist, on voit faire un moment, deux, trois passes, comme ça. Je dois en refaire pour le prochain film, je suis assez content, je dois refaire un duel. Je sais pas, parce que c'est justement parce que j'ai 46 ans et que je me dis, bah, les rôles de jeunes premiers s'éloignent, mets un petit coup de speed aussi sur l'épée, là, mais ça viendra peut-être pas, je pourrais pas tout faire, quoi. Mais ça fait partie de la panoplie de Noël, quoi. J'ai eu le cowboy, j'ai eu l'Indien, il me manque Zorro, quoi.
Bah, et puis vous avez eu l'arc et les flèches. Même si c'était un arc de bébé, certes.
C'est un arc de bébé,
ouais,
aussi.
Mais
ça, c'était une réplique de mon fils, ça, à l'époque.
Celle d'OSS,
ouais,
c'est
ouais,
un arc
ouais.
de bébé.
Oui, c'est un truc qu'on a trouvé sur le tournage, parce que mon fils disait tout le temps, ah, c'est un truc de bébé. C'est vachement bien, ça, pour avec une voix d'agent secret, c'est quand même. Évidemment, c'est un arc de bébé.
Où est-ce qu'on en est avec OSS, d'ailleurs?
Il est là, il vous entend.
Ouais.
Il est
en face de moi.
Il est en face de vous, il se prépare, cet Hubert. Le tournage devrait commencer dans un an, en octobre, septembre.
Voilà. Et il sera situé où?
Je ne sais pas trop le dire encore.
Quelle partie du monde,
enfin,
non,
vous top, imaginez peut-être, je suis sûr que vous avez des pistes.
Top secret.
Ouais. Okay. Je peux répondre que par oui ou par non.
Ok, oui.
Oui.
Dites oui.
Oui, je dis oui.
Ok.
Avant de parler de pop, de culture et de pop culture avec Miles Kane, réécoutons-le avec ce morceau Rearrange. Rearrange dans Pop 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 sur France Inter, c'est un morceau de Miles Kane, extrait de son premier album solo en 2011, Color of the Trap, et Miles Kane est notre invité aujourd'hui dans l'émission.
Maitken Rearrange, le morceau que nous venons d'entendre, c'est en réalité un patchwork de plusieurs démos, si mes informations sont bonnes. Ça veut dire quoi? Vous avez pris le riff d'un titre, le refrain d'un autre et les paroles d'un troisième? Et est-ce que finalement, ce n'est pas une définition, ça, de la pop culture?
Yeah, it was a desperate time.
j'étais désespérée à ce moment-là.
I was desperate to try and have a song. It's true though that it was the riff was from something.
Mais c'est vrai, j'ai pris le riff d'une chanson
was a chorus
et puis
of another
le
song.
Refrain, je l'ai piqué dans une autre chanson.
Then I wrote a verse and
ensuite j'ai écrit
when I was
un
listening
couplet.
To all these sort of demos, we were like,
et puis j'écoutais toutes ces démos.
Those bits were good on the four or five songs.
Et je trouvais que sur 4-5 chansons, il y avait simplement des petits bouts qui étaient
really
sympas.
Simple.
Donc j'ai dit, on va prendre les petits bouts qu'on trouve bons. Il
n'y
a que 3 accords, c'est très simple. Et on fait tourner ça, et puis ça a fonctionné.
Maintenant, passons à votre pop portrait. Alors, votre pop portrait, c'est évidemment votre portrait, mais...
À base de pop.
Et c'est signé Charlene.
T'es de pire en pire. Aujourd'hui, nous recevons l'homme qui s'est fait connaître en solo en nous faisant faire des « ah, oh ». C'était avec la bombe « Come Closer » qui figurait sur l'album « Color of the Trap » sorti en 2011, un premier album solo. Donc, je répète, puisque Monsieur Kane, ici présent, s'était déjà fait les dents au sein des Little Flames et des Rascals, et que durant un petit séjour en France, il avait aussi enregistré comme ça, vite fait, un album avec un copain, dénommé Alex Turner, et plein d'instruments, soit un orchestre plutôt. Un album intitulé « The Age of the Understatement », puisque dans ce début de carrière fulgurant, l'homme ici présent a aussi trouvé le temps d'être la moitié du projet The Last Shadow Puppets. On suivit en solo l'album Don't Forget Who You Are avec les Last Shadow Puppets Everything You've Come to Expect, mais aussi la formation d'un groupe de reprises des Beatles, Dr. Pepper's Jaded Hearts Club Band avec entre autres Matt Bellamy, le chanteur de Muse. Comme le magazine GQ l'a classé parmi les Anglais les mieux vêtus, il s'est aussi fendu de quelques collabs vestimentaires et stylistiques. Et donc du coup aujourd'hui on le remercie de venir nous donner le coup de grâce, le titre de son troisième album solo, coup de grâce d'une carrière déjà sacrément remplie.
Yes, thank you.
Ce fameux ah 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 ho 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 des Libertines, vous pourriez me le refaire ici en live?
Well, it's not a ha, it's more of a ah ah ah. And then a wow wow wow. I like a ah, a wow, a la, and a ba.
Voilà comment il faut le dire.
Oh wow. Et ben voilà. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter votre nouvel album Coup de grâce, juste pour faire fondre Charlene. Pouvez-vous le prononcer à nouveau?
Coup de grâce. Ah.
Ça marche très bien. Mike Kane, le coup de grâce sonne, c'est le dernier coup, celui qui sonne la fin d'un combat. Alors rassurez-nous, vous ne nous annoncez pas que c'est votre dernier album. Quelle est pour vous la définition du terme coup de grâce?
For me, I think it was well, you know, did we talk about the wrestling thing? It came from that.
Est-ce qu'on a parlé du catch? Parce qu'en fait, ça vient de l'univers du catch.
But and then when I found out the meaning, yeah, I just felt like
all these
songs have got a lot of. It reminds me of a time and a place and sort of feelings of good and bad.
J'ai pensé à
and it was kind of like putting them to bed.
Des temps où il arrivait des choses très dures, où les temps étaient rudes.
Cette passion pour le catch, elle remonte à quand et qu'est-ce que les shows vous apportent?
I loved it since I was a kid.
Oh, j'adore le catch, les catcheurs depuis que je suis gamin. Je m'en suis jamais lassé.
Mais la scène du catch en Angleterre est toujours très active. Parce qu'en France, ça a été légendaire dans les années 50, 60, 70.
Yeah, the WWE. I like the real cheesy mainstream. Love it. Yeah. Mm-hmm. It's not cheesy, it's cool actually.
Ouais, c'est un peu ringard, c'est un peu spécial, mais moi j'adore ça.
Vous pratiquez vous-même?
I used to, yeah. When that's what we
je
always do.
Me
and my cousins, but
avec mes cousins. Excusez-moi.
It's my wrestling time.
Ah oui, c'est le moment de regarder du catch là. On me rappelle.
C'est l'alarme.
Yeah, the alarm. So I've got to voilà. Right, get your top off, sunshine.
Je voulais pas louper l'émission.
Non, parce que dans le clip de Cry on My Guitar, vous combattez quand même contre Finn Balor, un célèbre catcheur irlandais.
Who's my hero?
Ouais, vous l'avez pas trop abîmé, j'espère.
No, it was. It was intense. A couple of days, and we had to work out each maneuver.
Oui, on a répété toutes nos prises, nos cascades. C'est vrai que j'étais un peu tout noir et bleu, surtout couvert de bleu au final. Mais c'est un rêve qui se réalisait.
I love jumping on him again. It sounds quite.
J'adorais lui sauter dessus. C'était vraiment une expérience.
I was loving it.
C'était dingue, j'ai adoré. J'étais vraiment dans mon élément à faire du catch.
Est-ce que la scénographie qui entoure les combats de catch est une forme d'inspiration pour la scène en ce qui vous concerne? Parce que pour vous avoir vu, oh là là, ça va y aller, plusieurs fois sur scène, vous êtes plutôt du côté rockstar de la force avec arrivée branlère et adresse directe à la foule.
Yeah, there's a weird, in my strange mind, I see a comparison in the entrances of the wrestler.
Oui, je sais que c'est un peu bizarre, mais vous savez, le petit couloir où les catcheurs passent avant d'entrer dans la lumière sur la scène, comme dans le cirque, j'adore ça. Et puis c'est ce côté glam, et puis c'est complètement dans l'excès, c'est too much, et ça aussi j'aime.
Revenons-en à Coup de grâce. Vous dites que pour obtenir ce disque, vous en avez composé à peu près trois autres. Que sont-ils devenus?
Lots of songs were written for this record.
Oui, j'ai écrit un grand nombre de chansons pour cet album. Vous savez, avec mon copain Jamie T, c'est avec lui que j'ai travaillé sur cet album.
And two of the songs that we did just seemed to be.
Et on avait beaucoup travaillé, composé pas mal de chansons, mais la plupart étaient un peu trop raffinées par rapport à ce que je voulais. Mais la qualité de l'écriture était vraiment sympa. Dès lors que j'ai collaboré avec Jamie T, on a choisi tout cela. C'est vrai que, bon, si on avait procédé par patchwork aussi...
And we got in this flow, and it just.
Mais l'an dernier,
lyrically, it was like a release, and they just felt very real and.
L'écriture de la plupart des paroles really. Des chansons, et tout semblait réel, sincère, puissant, c'était fort.
Mais alors, parmi la multitude de titres prêts, comment est-ce que vous avez choisi ceux qui figuraient sur l'album?
It's hard, really.
Ah oui, ça a été dur de choisir.
And I knew I wanted a short album, a 10-track album. I just wanted it to be sort of very direct and concise.
Et je crois que j'ai choisi les 10 meilleures chansons.
Pour ce troisième album, Coup de grâce, troisième album solo, vous avez donc recruté Jamie T, comme vous le disiez à l'instant, et Lana Del Rey. Que vous ont-ils apporté?
She just on this one song that we wrote Loaded.
Il y a une chanson que j'ai écrite avec elle, avec Lana Del Rey. C'est
Loaded. Yeah, me and Jamie had started to write Loaded, and we had the verses.
Et puis avec mon ami Jamie,
the tripping on the sidewalk.
On avait déjà
and
we had the couplet,
our chorus was just going to be
et pour
I'm too tired to try to let it go. Repeat this line.
On savait qu'on voulait répéter ça.
And then Lana came over to the apartment and.
Et puis Lana est passée chez moi. On était en train de la jouer avec Jamie.
Can I try a melody on the chorus? And she
started going. Elle m'a dit, je peux essayer une petite mélodie sur le refrain.
Quite a very distinctive Lana.
Et puis elle a trouvé une belle ligne mélodique.
It was better than ours, and we're like, wow, it's amazing, and it just fitted really well. And
et ça collait parfaitement.
And then our chorus becomes the outro, and it just all.
Et puis après, notre refrain est devenu l'intro, mais là encore, on a fait un joli mélange, patchwork.
Maybe one day they'll see the light of day, you know.
Et puis on a écrit autre chose dans une veine similaire. Peut-être que ça verra le jour plus tard.
Vous aviez précédemment collaboré avec Paul Weller, ex-Jam, ou encore Andy Partridge, avec qui vous aviez composé quelques titres pour votre deuxième album. Alors, je suis personnellement un fan ultime de XTC, voire le président du fan club. Est-ce qu'on peut avoir de ces nouvelles?
Andy Partridge, he's a lovely guy, you know.
Yes.
And I'd go to...
Andy Partridge, oui,
I'd go to his... he lives in Swindon.
Il habite à Swindon.
A small little town about... I know, about an hour, 2 hours from London on a train. And
à une heure ou deux de Londres par train.
Il
habite une petite maison.
He collects all these miniature soldiers, but there's thousands
of them. And he collectionne les petits soldats de plomb. Il en a des milliers. Il est très excentrique. Je le tiens pour un génie. On a travaillé. Il a un petit hangar dans son jardin. On se met là. On travaille quelques heures. Après, il rentre à la maison. Il fait de la soupe, avec des nouilles et du poulet. Et puis on se prend un petit sandwich. C'est trop sympa. Puis après, on se remet au boulot.
About 7 o'clock,
on continue à écrire.
And,
vers 19h, on s'arrête. C'est le moment de l'apéro. On prend une petite panne de bière. Voilà. Voilà, j'ai passé une journée comme ça avec lui la dernière fois. Et on le fait régulièrement.
Bon, je suis ravi.
Depuis 6 ans, on se voit.
Je suis ravi de savoir qu'il est en pleine forme.
Une question qui va sans doute vous sembler étrange, mais Miles, qu'est-ce que cette chanson vous évoque? Je parle d'un souvenir relativement récent.
Come on, mention this earlier. I haven't seen it though.
On a parlé, mais moi je l'ai pas vu.
C'est la chanson qui vous vaut d'être crédité comme le chanteur de karaoké au générique du film de Romain Gavras, Le Monde est à toi, sorti il y a 2 mois. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans ce film?
Because I'm friends with Romain Gavras, the director.
Parce que je suis un ami de Romain Gavras.
He said. He just called me, said he was making this film. It was last year.
Il était en train de le tourner l'an dernier. C'est un film de gangsters, là encore.
And he was like, there's a moment where all the gangsters go to the bar and they want
guns and drugs.
Il m'a expliqué qu'il voulait
yeah, he knew how to call.
Au moment où des gangsters se réunissaient dans un bar,
que je sois parmi
les figurants.
I'm the one in the gang that can sing and we're all drunk in
et
the
puis
bar
moi je représentais celui qui s'est chanté dans ce gang. On était tous ivres morts dans le bar. Bon, c'était pas vraiment joué, c'était plutôt sympa, rigolo. Mais j'ai pas encore vu le film, j'ai hâte de le découvrir.
Mais on est d'accord que Angels de Robbie Williams au karaoké, c'est une passion typiquement britannique.
Yeah, I mean it's a big, big song. It's a
oui,
big
one. Oui,
vous
oui,
la connaissez
oui,
par
oui,
cœur
oui,
toujours.
Rappelez-nous le refrain, s'il vous plaît.
The chorus.
How does it go, the chorus?
Oh, it's a big one. Do it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall. That note, that fall.
You've got to really belt it out.
On en a parlé plusieurs fois dans l'émission en relayant quelques-unes de vos vidéos, mais parmi vos multiples projets musicaux, il y a ceci. C'est le Dr. Pepper's Jaded Hearts Club Band, votre cover band des Beatles, avec des membres de Muse, Nine Inch Nails et des Zootons. C'est un peu votre récréation?
It's what you
recess like at school.
It came about as a one of the lads. It was for his birthday. Put it together. He knew everyone, and well, I think all of us, there's like six of us, seven of us.
When
we did this little birthday party for our friends, I think when we were in the rehearsal, we were all having such a good time.
À faire un bœuf ensemble.
Well, I mean, all the musicians are incredible. Like, and
tous ces musiciens sont des pointures.
This, and it's like to sing them Beatles songs is amazing.
Et chanter en leur compagnie, les entendre, c'était fantastique. Tout le monde était sur la même longueur d'onde.
No pressure, just,
pas de pression. On jouait juste ces morceaux magnifiques. On était à l'unisson, puis on a enchaîné d'autres chansons des Beatles. Je sais pas si ça se reproduira, mais en tout cas, c'était très agréable à faire.
Paul McCartney a d'ailleurs rejoint le groupe sur scène. Vous a-t-il livré quelques words of wisdom?
Yeah, I wasn't there.
Oh non.
Ah mais j'étais pas là, je l'ai raté, je me trouvais à Londres.
Oh mais non. I wasn't there, but obviously it wasn't good, you know. But yeah, no, I was in London when they were doing
that. Ouais, j'ai raté ça.
Miles Kane, il y a plus impressionnant que de jouer devant la reine d'Angleterre. Oui, il y a le fait de se produire sur la scène mythique de Pop Pop Pop. Alors Miles Kane, vous êtes prêt? Oui.
Yes, yes, yes.
Alors, après mon pop, c'est à vous.
Tripping on the sidewalk, living like a cyclone. Once I'm in your heart, I'll never know where you go. Harsh words in the headlines, sound sleep. Dressing like a psycho, walking on a tightrope. Funky like a monkey with my makeup on it. I'm too proud to find no time to breathe. My baby's always threatening to leave. You can't do that or be here. Always brought me down to my knees. You said I've never been clear. Well, honey, you better believe. Now that there's nothing to fear, you can just sleep. Talking like I'm tanked up, reading from the black book. Everyone you know is a Holy Ghost sinner.
You look away as you crucify me, yeah. Now I'm sleeping in the wreckage, I'm loaded like a weapon, bombing down Sheena like the end is coming. I prophesize if you miss the highs with me. My baby's always threatening to leave. You can't do that or be here. Always brought me down to my knees. You said I've never been clear. Well, honey, you better believe. Now that there's nothing to fear, oh, yeah, you can just sleep. Would you say my prayers if I came in prepared? Well, you can paint it all black, you're never gonna get it clean. When it's easier to leave, oh yeah, when it's easier to leave, oh yeah. My baby's always threatening to leave. You can't do that or be here. Always brought me down to my knees. You said I've never been clear. Well, honey, you better believe. Now that there's nothing to fear, yeah, you can just leave. Yeah. I'm too tired to try to let it go. I'm too tired to try to let it go. Yeah, I'm too tired to try to let it go. I'm too tired to try to let it go.
Merci Miles Kane, Lodi dans Live sur la scène mythique de Pop Pop Pop. C'est un morceau à retrouver sur l'album Coup de Grâce, pardon, Coup de Grâce. Et merci à Jean Dujardin, I Feel Good, sort en DVD le 5 février. Et d'ici là, si vous voulez binge-watcher Jean Dujardin, ben rendez-vous sur Netflix avec la saison 3 de 10%.
10%.
Ouais. Oui Charline, vous avez tout à fait raison. Rendez-vous demain pour réécouter un Pop 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 avec lui. Oui, et lui! Absolument, nous parlerons western avec Jacques Audiard et voguing avec Kid Ismaël, à moins que ce ne soit l'inverse.
Pas sûr.
Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Sonia Leglen à la réalisation, à la technique Guillaume Roux, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Cruel, notre stagiaire.